printemps du livre Grenoble 2024. Les rencontres littéraires radiophoniques de la librairie des étudiants. Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir ensemble le sixième volet des entretiens radiophoniques de la librairie des étudiants. Au programme de cet entretien réalisé au printemps du livre de Grenoble, nous ouvrons ensemble le dernier livre de Natacha Apana, La mémoire délavée, paru aux éditions Mercure de France en août 2023. Dans ce récit, Natacha Apana cherche à démêler l'histoire de sa famille. Ses aïeux, qui ont quitté l'Inde pour l'île Maurice, ont vécu le labeur dans les champs de canne à sucre. De toutes ces générations, Natacha Apana témoigne d'une grande force, une volonté de se battre pour vivre dans un travail difficile, mais qui fait vivre leur famille. Ce livre interroge aussi la mémoire, une mémoire familiale, ainsi que la place qu'elle occupe entre tous les membres d'une famille et même des générations. L'héritage familial oral peut aussi se perdre dans le temps, d'une génération à une autre. En cherchant à parler de sa famille, Natacha Apana embrasse des thématiques plus grandes, qui nous touchent tous à un moment donné, précisément dans notre vie. Voici maintenant l'entretien réalisé avec Natacha Apana à l'Hôtel d'Angleterre lors du printemps du livre de Grenoble. Bonjour Natacha Apana.
Bonjour Thomas.
Dans votre livre, vous revenez sur l'histoire de votre famille, où vous tenez à démêler les ficelles de ce que l'on a pu vous raconter à partir de la mémoire et de ce qui est vrai. Quel a été le déclic un jour de vous dire « je ne veux plus des peut-être, je veux me dire « je suis certaine de ce qui a été » et si je ne peux pas tout savoir, alors je préserve mon histoire familiale que je peux écrire et je laisse à l'oubli ce qui n'a pas été transmis.
J'aurais aimé me dire cette phrase-là.
Ah oui,
oui, mais malheureusement, ça n'a pas été comme ça. Ça a été un long cheminement. Je me rendais compte que l'histoire de la migration, de manière générale, même si je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut dire, migration de manière générale, en tout cas la transhumance des êtres humains, c'est quelque chose qui me fascine depuis très longtemps, à la fois dans mon travail de journaliste et dans mon travail d'écrivain. Et mon premier roman racontait l'histoire des engagés. Ce sont des Indiens qui sont venus remplacer les esclaves noirs dans les champs de canne, dans ce qu'on appelait les îles à sucre. C'est très joliment dit, mais c'était des îles où voilà, on travaillait la canne à sucre. Mais si vous voulez, moi, je me voyais, je m'imaginais et comme un auteur, une autrice ou un auteur de fiction. Je ne pensais pas un jour écrire un récit. Le Mercure de France, le livre est sorti au Mercure de France, dans une collection particulière qui s'appelle « Traits et portraits », où un écrivain fait un pas de côté et raconte un récit sur sa famille, je me disais que c'était peut-être le prétexte de raconter. Mais je savais tellement qu'il y avait tant de blanc à cette histoire, tant d'absence, et qu'il me faudrait écrire là-dessus ou à côté ou en essayant d'oublier ce silence-là. Je crois que mon livre est rempli de peut-être, malheureusement, qu'il est... Il y a très peu de certitudes. Il y a la certitude historique des choses. Quand mes ancêtres sont arrivés, la date, le nom du bateau, quelle est la première plantation où ils ont été, des documents historiques m'ont aidé dans la manière d'imaginer leur quotidien. Mais ce qui travaillait leur cœur, ce qui travaillait leur esprit, leur ambition, leur désir, tout ça, je ne le sais pas.
Vous faites des recherches pour comprendre votre histoire familiale et cette histoire, vous en faites aussi des livres. Est-ce que c'est le témoin d'une histoire plus large que celle uniquement de votre famille ?
J'espère parce que je voulais toujours faire ça, je ne voulais pas que raconter l'histoire de ma famille. Je me rendais bien compte que l'histoire de cette migration pouvait en tout cas être mise en parallèle avec d'autres histoires de migration. La manière dont, quand on quitte un pays pour un autre, on fait le choix des langues. La manière dont on se déleste de traditions, de culte. La manière dont on éduque aussi les enfants. On les éduque avec une sorte de rage, mais je ne sais pas si c'est ça, mais de rage de survie, en sachant que dans le pays où ils vont être, ce n'est pas un pays où on a été depuis très longtemps et qu'il va falloir s'armer. S'armer contre ce qu'on ne sait pas, s'armer contre l'inconnu. Et j'avais l'impression que cette histoire-là s'inscrivait dans l'histoire de tout être humain. Et d'ailleurs, ça, à ma grande surprise, après la publication de ces livres, j'ai eu énormément de retours de lecture et de témoignages. Mais alors, rien à voir avec l'engagisme des Indiens, non, pas du tout. Des exilés de l'Amérique latine, avec des petits enfants de paysans quittant la Corrèze et venant travailler dans le nord de la France. Vraiment, ce qu'ils retrouvent, et ce qui me fait plaisir, ce qu'ils retrouvent, c'est la grande solitude et la grande force qu'avaient ces premiers émigrants-là.
Est-ce aussi, pour vous, une façon de vous approprier votre histoire familiale en l'écrivant dans ces récits ?
Oui, je dirais évidemment à la fin, je la connais un peu mieux, je la maîtrise un peu et aussi je la pense un peu mieux. Je crois que c'est important de ne pas simplement être une sorte de réceptacle de son histoire de famille. Mon grand-père a fait ça, ma grand-mère a fait ça, mon arrière-grand-père a fait ça. Mais de la penser dans une histoire mondiale, dans une géopolitique plus large. Et moi, je l'avais déjà pensé, mais là, ici, ça m'a fait, préciser ma pensée sur comment... la colonisation, la plantation, comment l'asservissement des corps et des esprits pouvaient se transmettre. Ça m'a fait comprendre une sorte de motif de l'asservissement qui pouvait se transmettre. Donc je la pense différemment et peut-être que je comprends aussi des choses différemment dans la manière dont mon propre père, ses sœurs et frères ont été élevés et dans la manière dont ils ont mené leur vie.
Ce livre explore aussi le jeu de la mémoire entre l'image que l'on garde en souvenir et la réalité lorsque l'on se rend de nouveau sur un lieu où on n'a pas été depuis très longtemps. Ce jeu d'image n'est-il pas aussi le sujet même d'une mémoire délavée ?
Absolument, surtout que la mémoire familiale, elle est, en tout cas pour moi, elle a été orale. Il n'y avait pas rien d'écrit, rien de documenté, il n'y avait pas d'éléments de statistique. Enfin, statistique, c'est un mot très savant, mais par exemple, je ne sais pas exactement le nombre d'enfants qu'a eu ma grand-mère. Et je ne lui ai jamais demandé non plus, parce qu'il y avait beaucoup de pudeur et de retenue sur ces sujets-là, les sujets qui avaient trait au corps, à la féminité, aux enfants, à la vie sexuelle. Donc, c'est difficile, quand les années passent, de lutter contre la disparition de cela, la disparition de quelque chose qui n'a existé que de manière orale, que de bouche à oreille. Et que si personne ne note, si personne n'écrit, ces choses-là disparaissent. Non seulement elles disparaissent, mais elles se transforment. Elle change, elle mue. Et alors, ce qui est terrible, j'allais dire terrifiant, mais peut-être un peu terrifiant, c'est que ces histoires muent selon les intentions personnelles. Je vais vous en raconter une. Quand les Indiens arrivaient à l'île Maurice, donc descendaient du bateau, il y avait une fiche d'arrivée avec leur nom, leurs caractéristiques et également leurs photos. Et à l'île Maurice, il y a un musée qui existe avec ces planches. Elles sont absolument, sidérantes parce que du début de l'engagisme jusqu'à la fin de l'engagisme, les photos sont tellement différentes. Le début de l'engagisme, on voit bien le désarroi total des gens qui ont fait 8 semaines à 10 semaines de bateau. Les cheveux sont complètement ébouriffés, les regards hagards, vraiment aucune lumière dans les yeux, à peine habillés. C'est vraiment assez terrifiant. Au fur et à mesure du 19e, du 20e siècle, les gens étaient de mieux en mieux habillés. Les femmes gardaient leurs bijoux, étaient un peu plus cafouées. C'est très intéressant, l'évolution. Enfin, ceci étant dit, moi, mon arrière-arrière-grand-père est arrivé en 1872 et la photo de lui, c'est un homme émacié, les cheveux dans tous les sens. Il regarde toujours à gauche, vers le bas, comme ça. Elle est terrible, cette photo. Et elle montre une fragilité, une vulnérabilité. Donc, cette photo, elle existe. Et j'ai un oncle qui est très, très bien réussi dans sa vie, qui a beaucoup voyagé, enfin bon, qui a très bien réussi et qui a transformé cette photo. En Inde, il existe des photographes qui prennent des images d'archives et les rhabillent. Et donc, chez lui, quand vous allez chez lui, il y a cette photo, mais cet ancêtre, qui pour moi est un numéro en réalité, cet ancêtre a été rhabillé comme un roi. Il a une tunique blanche, une écharpe bleue, il est coiffé, il est maquillé. Et ça, je trouve ça dangereux, parce qu'il refait son histoire. Son histoire à lui, c'est que son ancêtre était un petit prince, alors que non, c'était un laboureur.
Alors justement, le changement de la mémoire se fait parfois aussi par le temps, et vous l'écrivez. Le temps, lui, passe comme un rouleau compresseur, et ceux qui savent meurent avec la vérité. Est-ce que le temps qui passe vous fait peur ?
Voilà, elle est difficile, cette question. Elle me fait peur. Non, elle ne me fait pas peur. Elle ne me fait pas peur parce que je vois bien les vertus du temps. Je vois bien combien je comprends un peu mieux les choses. Bien sûr, ça m'échappe. Plein de choses m'échappent. Mais non, je n'en ai pas peur. Je l'accueille, si ce n'est je l'embrasse.
Dans votre récit, vous écrivez que votre père est ému en voyant votre fille et qu'il aime à penser ce qu'auraient pu dire vos grands-parents, qu'il y a donc une transmission par la pensée et l'amour des membres de votre famille à leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis à vous ?
Mes parents ou mes grands-parents ?
Les deux.
Les deux.
Peut-être vos grands-parents ?
Oui, mes grands-parents. Beaucoup de choses, hein, l'attention aux détails, je crois que les deux m'ont transmis la vertu du travail. Je les ai tellement vus travailler de manière très différente. Hein. Mes grands-parents ont travaillé, étaient des paysans, moins que des paysans. C'est-à-dire, ils n'avaient aucune terre, donc ils étaient vraiment des laboureurs. Donc ils travaillaient du matin jusqu'au soir. Mon père était ingénieur agricole, donc lui, il allait travailler assez loin. Et donc je l'ai toujours vu se lever très tôt, rentrer très tard. Et je pense que j'ai appris ça d'eux, que les choses ne venaient pas très vite, qu'il fallait attendre. Peut-être que ça rejoint votre question sur le temps.
Okay.
Voilà. Ensuite, je crois que ce que moi j'en ai... il me semble aussi qu'ils m'ont transmis la multiplicité des langues et des cultures, la manière de passer d'une langue à l'autre, de respecter cela chez l'autrui. Et j'espère que je transmets ça aussi à ma fille. C'est le respect de toute religion et de toute langue et de toute culture.
Merci Natacha Abana.
Merci à vous.
La mémoire délavée, c'est le titre de votre dernier livre qui est paru aux éditions Mercure de France, qui est toujours disponible en librairie depuis août 2023. Amis auditeurs et auditrices, nous nous retrouvons demain pour le dernier entretien du printemps du livre réalisé avec Éric Reinhardt. La capsule auditive de notre entretien du jour est bien sûr à retrouver en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8. À demain.